Alors, bon après-midi à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir autour de ce plateau radio intitulé « Recherche, radio, son, est-ce que ça résonne ?» Installé dans la salle Georges Duby de la Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme, ce mardi 28 avril 2026, ce plateau radio va durer de 14h à 15h30 pour revenir sur les rencontres entre chercheurs et artistes et les productions radiophoniques qui ont été réalisées au cours du workshop Radio Doc, un workshop de recherche-création qui s'est tenu du 17 au 23 novembre 2026 à l'École supérieure d'art d'Aix-en-Provence. Centré autour de la réalisation radiophonique de type documentaire, Radio Doc a été animé par la documentariste et productrice radiophonique Amélie Perrault de France Culture, accompagnée par trois membres du laboratoire de recherche en art Locus Sonus Vitae, Léa Pintendre, artiste sonore, Peter Sinclair, François Parra, tous deux artistes enseignants à l'École supérieure d'art d'Aix-en-Provence. Et ce workshop Radio Doc a été organisé en partenariat avec deux laboratoires de recherche de la MMSH, l'IREMAM et Mésopolis, ainsi que l'URMIS Nice, et deux programmes de recherche, le programme Métis, méthode créative dans la recherche en sciences humaines et sociales, et le programme La recherche par l'écoute, dans le cadre du programme cadre CNRS, ministère de la Culture. Ce workshop a réuni pendant une semaine une vingtaine d'enseignants-chercheurs d'Aix-Marseille Université, des chercheurs du CNRS, et des étudiants en master et doctorat d'Aix-Marseille Université, mais aussi de l'École supérieure d'art d'Aix-en-Provence. À partir de séances d'écoute, nous avons exploré les enjeux éthiques, politiques et pratiques du recueil d'une parole documentaire. Les participants se sont familiarisés avec l'écriture radiophonique et la place de l'écoute pour percevoir et raconter le monde. Chacun a ainsi pu faire l'expérience concrète de la prise de son, du montage radio et du mixage, et réaliser une courte création documentaire en binôme. Si certains sont saisis du son pour s'orienter vers des créations poétiques et humoristiques, d'autres se sont plutôt tournés vers le recueil de mémoires, d'expériences et de témoignages. Quels qu'aient été ces choix, les 9 petits documentaires qui ont été réalisés et mis en ligne sur le site Locus Sonus Vitae ont démontré la puissance et la capacité des documentaires et des montages sonores à transmettre les dimensions sensibles de notre monde bien au-delà de l'agencement des mots. Ils montrent que la recherche, le sensible et le lâcher-prise ne sont pas incompatibles, au contraire. Pour reprendre les mots de Laetitia Nicolas, dans un article de 2008 sur les archives sonores, les documentaires sonores nous rappellent combien chaque prise de parole, chaque témoignage, chaque manière de parler dispose d'une densité, d'une ambiance et d'un rythme propre, tout aussi signifiant que les mots dont elles sont le véhicule. Mais comme nous le verrons aussi, ces documentaires n'offrent pas seulement la possibilité de se glisser dans des intimités non partagées et de stimuler l'imagination, mais aussi de relancer les questionnements, non seulement autour des mondes que nous étudions, mais aussi autour des modes et des dispositifs à travers lesquels nous nous engageons avec eux. Alors pour illustrer ces questions, à travers ces questions qui se sont développées autour de ce travail collectif, on a choisi avec Anne, Sarah et Peter de vous faire écouter 3 créations sonores sur les 9 auxquelles vous aurez accès sur le site internet Locus Sonus Vitae. Tout d'abord, celle de Rémi Boivin, sociologue, et de William Huet de l'association ATOUP, qui est intitulée L'Estac des joutes pour un accès à la mer. Ensuite, celle de Joachim Son, jeune artiste, et de Maya Tahiri, politiste, intitulée Autrement que carré dans l'assiette. Et enfin, celle de Magali Nonjon, politiste, et Fabrice Galis, artiste-chercheur, intitulée Malia, son père et la mère. On écoute tout d'abord L'Estac des joutes pour un accès à la mer.
Tu peux pas le vendre, c'est public ça, ça appartient aux gens ça. Un terrain comme ça, pourquoi pas le faire un jardin pour le public, vu que ça c'est une propriété du public ça. T'es qui toi pour acheter? Et nous, et les gens, ils ont pas le droit? On peut pas avoir tout. Normalement, avec l'argent, on peut pas avoir tout. Il faut laisser quand même quelque chose pour les gens.
J'avais 13 ans. Ça a commencé que ça, on a commencé à faire des championnats, on a commencé à gagner. Mmh. Et le jeune, on commence à gagner ça ici, à la fin de l'Assassin. J'habitais avec les gitans. Et j'ai fait descendre tous les jeunes gitans du château Beauvais. Aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, ils ont perdu leur maison, ils ont brûlé cet été-là. Ils ont tout perdu. Maintenant, ils sont toujours là, ces jeunes-là. Et ça a enlevé un petit peu de la délinquance entre là. Et c'est de là que c'est parti, ça a mis de l'ampleur à la fin de l'Ancestakienne. Maintenant, tu le vois, les jeunes, à l'heure d'aujourd'hui, sont tous qui travaillent. Tout ce qui reste aujourd'hui, on est maintenant, moi j'ai l'âge de 60 ans, il y en a, ils ont 20 ans, il y a les cousins, les minots, maintenant que leur famille, au lieu que ce soit les gitans, la rue Pasteur, tout ça, toute une famille qui s'est construite aux joutes. On est le club le plus titré de Marseille. Et cette année, on a tout refait, je ne sais pas si j'ai entendu parler. On a tout défoncé, on a gagné le championnat de France, la Coupe de France, la Coupe de Provence, le championnat de Provence, et tout confondu, tout le marché, on a été champion de France et Coupe de France, et tout ça. La finance
est stackée.
Et l'année passée aussi, on a gagné, on a été champion de France, on a gagné la Coupe de France.
Vous étiez tueur.
Je fais partie d'une association qui fonctionne autour d'un bateau qui fait rêver. Tu montes dessus, t'es déjà parti au bout du monde, même si tu navigues pas beaucoup. Donc on ne cherche pas à faire des grandes navigations, mais on cherche à partager des choses sur le bateau. Alors ça peut être des navigations, des balades petites, par exemple pour admirer la Côte Bleue ou des choses comme ça. Et ça peut être aussi plein d'autres choses, comme des petits concerts. Ça peut être des lectures, ça peut être des rencontres, ça peut être des cafés philo, ça peut être des tas de choses. Notre bagarre en ce moment, c'est quand même l'accès à la mer, parce que c'est bien d'avoir des ports, mais c'est bien aussi de pouvoir avoir un accès au bateau et à la mer aussi, d'ailleurs. On n'a pas le bord de mer, c'est tout confisqué. Nous, ici, à l'Estac, tout est verrouillé, etc. Il n'y a pas un cheminement en bord de mer. Les habitants de Mouropiane, qui autrefois descendaient à pied de leur maison, traversaient la rue, ils allaient sur le bateau du PP, juste de l'autre côté de la rue, c'est fini, ça. Ils ne peuvent même pas aller jusqu'à l'eau, quoi. Il y a des grilles, des hangars, des machins, des trucs. Et là, ici, à l'Estac même, il y a juste l'espace Mistral, qui est entouré de tas d'endroits où on pourrait quand même faire des choses et on ne sait pas ce qui va nous tomber dessus. Voilà, c'est ça qu'on défend.
Cette mise à l'eau là de l'Estac, c'est à la croisée un peu de tous les enjeux du Grand Estac, parce que on a, quand on regarde, là on est face aux anciennes carrières des usines, donc à notre gauche il y a le Fortin, il y a les plages de Corbières. Donc là, c'est tout l'aspect accès à la mer, loisirs. Le Fortin, c'est aussi bon, un enjeu de se réapproprier cet accès, parce que pour le moment, il est privatisé. Donc voilà, dans le Grand Estac, il y a cet accès à la mer, tourisme, loisirs, activités commerciales, infrastructures, l'aspect culturel, patrimonial.
Qu'est-ce que t'en penses, toi ?
Certainement. Un peu les bobos qui veulent récupérer. Mais bon, c'est pas un enjeu à l'Orient Estac, ça veut dire rien.
Tu veux
un
café, non ?
Non, c'est pas l'heure.
C'est toujours le passé
quand t'es un ballon, s'il te plaît.
Un gros ballon.
On sert.
Le nid, où il passe ?
Il y a
tous
les deux parcelles qui passent.
La parcelle.
Alors à travers ces témoignages articulés des ambiances sonores, Émilie William, vous nous avez conduit à l'Estac pour donner la parole aux habitants. Vous évoquez de manière particulièrement touchante les différents rapports au littoral, les enjeux et les difficultés autour de l'accès à la mer, la mémoire vivante autour des joutes et la mobilisation et les combats que mènent certains habitants. Rémi, William n'a pas pu venir avec nous. Est-ce que tu pourrais revenir éventuellement sur l'expérience de ces 5 jours de workshop et nous dire ce que tu en as retenu et ce qui t'a particulièrement touché ?
Alors, pour moi, ça a été un exercice super intéressant, un exercice double sur... on a un propos, comment est-ce qu'on s'y prend pour le donner à entendre, quoi. Comment est-ce qu'on on s'y prend pour formuler, enfin pour faire entendre au mieux le propos qu'on tient, en l'occurrence donc l'empêchement de l'accès au littoral. Et sur la partie plus technique, là quand je réécoute la pièce, je vois plein de défauts. Enfin, pas que maintenant je suis un expert, mais même des, sur des questions de narration. Par exemple, à la fin, il y a le président du CIQ de l'Estac qui parle, et on mixe ça avec des sons d'ambiance dans le bar. Et en fait, moi là, je trouve ça un peu confus, dans le sens où on a l'impression que le président du CIQ est au bar, alors que pas du tout. Enfin bon, après, ça, c'est aussi drôle, on l'a vu comme un jeu avec William. D'ailleurs, il n'est pas là pour en parler, mais c'était intéressant, notre binôme, parce que lui, il a une association, et moi, je suis sociologue de formation, donc on s'y prenait pas. Enfin, on était d'accord sur la thématique et sur le propos, mais on s'y prenait pas pareil, on n'avait pas la même finalité derrière. Et c'est aussi quelque chose qui était super intéressant à croiser, enfin, comme occasion de croisement, en tout cas. Donc, j'en retire plein de bonnes choses.
Et comment vous avez réussi à composer, justement, entre ces attentes et ces démarches très différentes les unes des autres ?
Bah, franchement, pour le coup, c'est sur le propos. On a voulu... tous les deux, on était partants pour faire quelque chose sur les stacks. Il s'avère que lui, il avait déjà du réseau. Par exemple, le président du CIQ, c'est parce qu'il avait le contact, qu'on a pu caler un rendez-vous au dernier moment et que ça a marché. La dame qui parle, donc Danielle, elle aussi, donc son association sur le bateau, parce que lui-même, il a un bateau et une association. Donc ça, moi, je m'y retrouvais très bien dans cette approche-là, parce que moi-même, j'ai un projet de documentaire sonore. Et c'est pour ça que c'était un qui porte aussi sur les transformations urbaines et culturelles de Marseille. Et donc, on était raccord sur la thématique, enfin sur le propos, qui a une dimension un peu politique aussi, on va dire. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Et aussi Roscoe, qu'on entend parler, donc qui a le club de joute. Ça aussi, c'est par William qu'on a eu ça. Donc en fait, il a facilité vraiment une prise de contact avec des acteurs ou des personnes engagées localement. Et ça, c'était vraiment super. Et moi, c'est par ailleurs quelque chose que j'ai l'habitude de faire dans d'autres quartiers de Marseille, de rencontrer à la fois des habitants et des acteurs associatifs pour raconter des actions et l'évolution, des transformations de certains quartiers. Donc, notre point de convergence, il était vraiment là-dessus.
Et est-ce que cette expérimentation, elle a changé ton rapport à la recherche ou à ta manière de faire la recherche, ou est-ce que tu sens qu'elle pourrait le faire ?
Je dirais que c'était un mouvement qui était déjà engagé pour ma part, mais que ça a mis une pièce en plus dans la machine, quoi. Ça m'a conforté dans mon envie et mon désir d'aller plus loin là-dedans, et c'est pour ça que justement là je suis en train de finaliser une création sonore qui sera diffusée sur Grenouille bientôt, avec le soutien de Mésopolis et d'Amidex d'ailleurs, Marseille Ville Sonnante.
C'est la semaine prochaine, c'est ça ?
Bah, la conférence dans le cadre du colloque Marseille Ville Ordinaire, c'est mardi prochain au Musée d'Histoire, et la pièce, elle sera diffusée sur Radio Grenouille peu après. Je n'ai pas encore la date exacte, mais ce sera courant mai, ce sera diffusé sur Radio Grenouille.
Merci beaucoup.
Merci.
On va écouter maintenant la création sonore qui a été réalisée par Joachim Son et Maya Tahiri et qui s'intitule « Autrement que carré dans l'assiette ».
Comme ça.
Ouais, sous les bureaux.
Ouais, si c'est possible. des Beaux-Arts à Aix et on fait un podcast sur la criée.
Sur la criée, oui.
Excusez-moi, bonjour, vous n'avez pas un violet ?
Oui, non, je ne cache pas le violet. Je m'appelle Sandrine.
Bonjour Sandrine.
Bonjour. Alors, véritablement, moi je ne pêche pas. J'ai mon ami qui va à la mer, qui se lève relativement tôt pour poser les filets. Donc il se lève vers 2-3 heures du matin. D'accord. Nous on a une zone de pêche qui est très précise. Nous on pêche, c'est la côte bleue Carie, Saucé, Niolon. Voilà, on est à une dizaine de kilomètres des côtes. Et de toute façon, il n'y a pas à tortiller, il y a un bateau, donc on a du produit frit. Il n'y a pas de... Parce qu'il y a des personnes, des fois, qui viennent et qui vous disent, mais c'est du jour. Vous avez encore le poisson qui est vivant. Mais ils vous disent, c'est du jour. Bon, vous dites, bon, non, on a mis des piles ce matin dans le poisson pour les faire un peu fritiller. Donc voilà, on va dire, on suit un peu comme les saisons. Nous, c'est l'été, le printemps, l'automne, vous voyez. Eh bien, les poissons, c'est la même chose, comme les fruits et les légumes. Moi, des fois, il y a des clients, ils me disent, oui, vous n'avez pas de la sardine. Non, je n'ai pas de la sardine. C'est comme si vous me demandez de la pastèque en décembre, quoi. Ah ben là, en ce moment, on a beaucoup de poissons de roche, donc pour faire la soupe de poisson. Donc la soupe de poisson, hein, il ne faut pas oublier ben, le fenouil, le concentré de tomate, le vin blanc, qu'est-ce qu'on met encore ? L'ail, l'oignon, le persil, le safran. Bon, tout ça pour avoir une bonne soupe de poisson, c'est... Sans oublier les croutons et l'aïoli.
Exactement.
Parce que si vous oubliez ça, vous oubliez tout. Hein. On n'est plus à Marseille, hein, sinon. Hein. Mes grands-pères étaient deux patrons pêcheurs. Donc eux, c'est vrai qu'avant, ils faisaient la soupe de poisson, c'était avec les poissons qui restaient sur le bateau, qui ne vendaient pas. Et tous les poissons qui restaient, ils s'en servaient pour faire la soupe de poisson, qui était délicieuse, je vous avoue. Moi j'ai perdu un grand-père, donc je ne l'ai pas connu, je le sais à rapport à ma mère. Mais l'autre grand-père, voilà, moi je le voyais dans la cour, il refaisait ses filets pour le bateau. Donc tout ça, moi je l'ai vu de toute petite, donc je voyais qu'il y avait quand même une passion, que c'était un travail. Puis en grandissant, vous dites, c'est vrai, maintenant j'avoue que c'est du boulot. Quand je vois aujourd'hui... mon ami qui va à la pêche et qui me dit j'ai pris du mauvais temps et que j'ai tous les filets déchirés et que la somme que ça revient, parce qu'il ne faut pas croire, on se dit ouais c'est... Mais bon, certains filets ça va jusqu'à 25-30 000 euros. Moi il y a des clients qui me disent ouais mais la semaine dernière je suis passé c'était 12 euros et là c'est 15. Je dis mais le poisson c'est comme à la bourse. Hein. Ça veut dire tout dépend de la mer comme je vous expliquais tout à l'heure. De plein de choses et du coup ça peut très varier quoi. S'il y a mauvais temps, très peu de poissons, bien sûr que le poisson augmente, ça peut varier d'un jour à un autre quoi. Au départ j'avais très peur du poisson, je vous le cache pas, très peur dans le sens où je voulais pas en manger, ça a duré jusqu'à l'âge de 19 ans quand même hein. Et le jour où j'ai voulu vraiment travailler et qu'il fallait que je travaille, eh ben, où je suis tombée dans une poissonnerie.
Les enfants ça c'est bon.
Le client reste le client, d'accord, mais je suis là aussi pas que pour vendre, je suis là aussi pour leur expliquer. On va dire une fois par semaine, j'ai des classes qui passent. Je leur explique, voilà, le poulpe il a 8 pattes, on l'appelle octopus, c'est son nom grec, il a 8 cerveaux, c'est le plus intelligent des mollusques. Je veux dire, il y a plein de choses à savoir, ils sont là, pourquoi la dorade royale, elle a une couronne entre les deux yeux. Il n'y en a que trois sortes, mais celle-là, c'est la plus grande des dorades. Vous voyez, j'essaye de les amener à connaître, à reconnaître le poisson autrement que carré dans une assiette.
Bah, il m'en faudrait 2 ou 3 kilos. 3 kilos, c'est mieux. 2 kilos, c'est...
Les jeunes commencent à, on va dire, 25, 35 ans, se rapprocher sur du frais. Alors, vous n'avez jamais fait, on va commencer par un poisson blanc, très peu d'arêtes, comme le merlan, c'est le premier poisson qu'on donne aux enfants, et de les orienter comme ça, doucement, et vous voyez, hop, ils reviennent. Après, ils disent, ah, ben, on a goûté, c'était super bon.